RMC, Intégral Tour.
La révolution est comme une bicyclette. Quand elle n'avance pas, elle tombe.
Eddie Merckx.
Christophe Cessieux.
Et oui, le cri du gorille. Le gorille criera trois fois. C'est la troisième victoire d'étape aujourd'hui pour André Greipel, qui montre qu'il est bien le sprinter le plus rapide du peloton. Personne n'a pu lui résister, Fred. Il est parti de très loin. Il a résisté à tout le monde. Il est quand même très très fort, ce Greipel.
Oui,
sur les routes du Tour.
Arrivée promise au sprinter aujourd'hui. Et les promesses ont été tenues ici à Valence. André Greipel, l'Allemand de 33 ans, qui a lancé sur la gauche de la route à 400 mètres de la ligne d'arrivée et qui a résisté au retour des meilleurs sprinteurs du monde. Sprint royal remporté par Greipel, qui remporte là sa 9e étape sur le Tour de France. Il devance sur la ligne d'arrivée son compatriote allemand John Degenkolb, le Norvégien Alexander Kristoff qui refait surface sur ce Tour. Peter Sagan est 4e. Pas de changement au classement général, évidemment.
Très bien. Dans ce studio RMC, dans notre petit camion, nous rejoint une légende vivante. Ah ben oui, il faut dire les choses comme elles sont.
Rien que ça.
Pour moi, c'est une légende. Je suis de la génération de ceux qui ont découvert le vélo avec Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour de France. Bonsoir Bernard.
Bonsoir.
En 1975 et 77. Je vais même te raconter une anecdote. Moi, j'ai découvert le Tour en 75, l'étape de Pralou, dans quelques jours où tu avais battu Eddy Merckx. J'étais parti à l'aube avec mon papa en moto. On était allé dans le col de la Cailloule ou la Couillole, je sais plus, l'un des deux.
La Cailloule.
Non, Col d'Alos, parce qu'on passait pas la Cailloule. C'est Col d'Alos. Il est parallèle à la Cailloule.
Voilà, j'ai des souvenirs un peu.
Tu étais très jeune à l'époque.
J'étais tout petit, et donc c'était cette étape mythique où tu as tombé le cannibale.
Et
on va fêter dans quelques jours le 40e anniversaire, puisqu'on va arriver à Pralou dans 3 jours.
Le vrai 40e anniversaire, c'était le 13 juillet.
Le 13 juillet, ouais.
Mais on va fêter le lieu anniversaire, on va dire.
Ouais. Bon, j'imagine que tu es très sollicité pour évoquer cette étape, parce que c'était un grand moment, hein. On aimerait bien en avoir des grands moments comme ça, avec un Français qui bat tous les grands, et notamment tous les maillots jaunes.
Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas, puis malheureusement, pour le moment, j'ai pas l'impression qu'on va en avoir ni cette année ni encore l'année prochaine. Hein. On a des bons coureurs, hein. On a des coureurs comme Pinot, Bardet, Barguil, mais ils ont encore besoin de prendre de la caisse, comme on dit, c'est-à-dire de prendre de l'expérience. Comme par exemple, on a pris Galopin, mais pas de Galopin, parce que je ne pensais pas du tout qu'elle allait se retrouver à cette place-là après le passage des Pyrénées. Avant, il passait très bien un col, mais une étape de col, c'était plus difficile pour lui. Maintenant, mais il arrive à passer les étapes de col.
Rafraîchis-moi la mémoire, moi qui n'étais pas né en 1975.
C'est sympa, merci.
Je t'en prie.
Oui, nous fait mal.
Merci, Fred, merci.
Quel âge tu avais, Bernard, quand tu as remporté ton Tour de France?
27.
Tony Galopin a 27 ans. Donc, tu es très bien placé pour savoir qu'un coureur cycliste arrive à maturité sur ces années-là et qu'il ne faut peut-être pas effectivement en attendre trop de Pinot, 25 ans, et de Bardet, 24 ans. Romain Bardet, qui a remporté l'étape d'Ine-les-Bains-Pralou il y a un mois sur le Dauphiné, le critérium du Dauphiné. On était là en répétition du Tour de France. Ce sera exactement le même parcours lors de l'étape de Pralou. Est-ce qu'un coureur qui s'impose d'une manière aussi brillante sur le Dauphiné, sur cette étape de Pralou, peut refaire la même dans quelques jours?
Ce qui est sûr, c'est qu'il sera motivé, hein, parce qu'il connaît bien il connaît bien la montée d'Alos, il connaît surtout bien la descente, parce que c'est là où il avait creusé l'écart. Il a pris une minute à tout le monde dans la descente. C'est aussi une étape qui est difficile, hein, parce que le col d'Alos, ça monte, si on prend vraiment depuis le pied, depuis le moment où il y a les premiers faux plats, ça monte pendant 20, 25 ou 27 kilomètres. Donc c'est très long. Dans la descente, on est à fond, on récupère pas. Et la montée de Pralou, qui n'est pas une montée difficile, bien même dans le dernier Dauphiné, elle a quand même creusé des écarts. Pourtant, c'est pas une montée très difficile. Mais si on monte le col d'Alos avant et la descente à bloc, eh bien ça, on arrive en bas, on est déjà bien entamé, on a plus beaucoup de force. Et on peut perdre beaucoup de temps dans cette montée.
Ouais, on a hâte, en tous les cas, d'arriver dans les Alpes. Évidemment, on espère qu'il va se passer des choses, que les adversaires de Chris Froome vont oser l'attaquer. On a vu que Quintana n'avait pas renoncé, hein, Bernard. Pour toi, c'est le seul qui peut envisager de détrôner Chris Froome de son maillot jaune.
Bon, je pense, oui, pour le moment, les autres sont loin quand même. Hein. Et puis, bon, Chris Froome marche bien, il a une bonne équipe. Alors, pour arriver à le détrôner, ça va être compliqué. À moins que Chris Froome ait une défaillance, comme on a vu, merci. Il y a 40 ans, c'est toujours possible. Mais même si Froome avait une défaillance, de toute façon, à ce moment-là, la route est ouverte pour Quintana parce que les autres sont trop loin derrière.
Bernard, il y a une drôle d'ambiance là depuis 48 heures sur ce Tour de France avec ces actions contre Chris Froome, hein, qui aurait reçu un verre d'urine hier dans l'étape. Mais on a l'air de découvrir ça. C'est pas la première fois dans le Tour de France qu'on s'attaque au leader, qu'on s'attaque au maillot jaune, le Tour de France 75 que tu remportes face à Eddy Merckx, il y a ce coup de poing d'un spectateur sur Eddy Merckx. L'ambiance était particulière là aussi parce que c'était un Français qui était à la bagarre avec le cannibale. Mais c'est de tout temps le Tour de France a connu ce genre de choses. Malheureusement, évidemment.
Oui, malheureusement, mais bon, dans un sens, il faut aussi se contenter. C'est-à-dire, il y a 15 millions de personnes au bord de la route. Bon, bah, qu'il y ait 2-3 imbéciles sur les 3 semaines, qu'est-ce qu'on peut y faire? Rien de faire. Tant que ça reste des actes isolé comme ça, on peut pas surveiller tout le monde, on peut pas mettre un gendarme ou un policier derrière chaque spectateur. En tout cas, c'est un geste qui déshonore celui qui l'a fait, parce que je vois pas pourquoi on va viser Chris Froome. Qu'est-ce qu'il nous a fait à nous, les Français? Il n'a pas fait de non. À moins que ça soit à moins que ça soit un Belge ou un Hollandais, je sais pas qui a lancé ça. Mais je vois pas pourquoi on peut se Pour quelle raison on doit s'en prendre à un sportif qui nous a pas porté préjudice.
Rappelle-nous l'ambiance qu'il y avait sur ce Tour de France 75, Bernard. Et donc ce coup de poing reçu par Eddy Merckx, ça avait fait les gros titres là aussi. Hein.
Oui, mais l'ambiance au départ, et ceux qui sont dans ce tour ou qui ont suivi
Cyril Guimard, il n'était pas en 75, Cyril.
Il n'était pas.
La seule fois en 50 ans. Hein.
Il était au repos, Cyril. Il avait fait un très bon tour l'année précédente, mais là, je ne sais pas, il avait un problème, il nous le dira tout à l'heure. Mais il n'était pas là. Non, mais au début, l'ambiance, Cyril ne va pas me contredire, mais il y avait 90% de polydoristes et les autres avaient droit à 10% à peu près. Hein, les pancartes et les choses comme ça. Et du jour où j'ai pris le maillot jaune, ça s'est inversé. Mais quand Merckx a reçu son coup de poing dans le Puy-Dôme, c'était la... Le coureur le plus applaudi du tour, c'était encore Poulidor et de loin.
Ouais. Et Eddy Merckx n'était pas très populaire, faut bien le dire.
Non, parce qu'il en a gagné 5.
Les Français n'aiment pas ceux qui gagnent trop non plus.
Il en a gagné 5, on n'aime pas ceux qui gagnent trop, oui, effectivement. Ouais.
Deux, ça va. Deux, on garde sa popularité. Au-delà de deux, ça va.
Et même au deuxième, on n'a pas la reconnaissance qu'on devrait avoir. Ouais. Mais, bon, c'est le caractère français, ça. Franchement, si j'avais pas gagné 3, j'en aurais gagné 3.
Cyril aurait bien aimé en gagner. Enfin, il en a gagné comme directeur sportif. Hein,
c'était pas loin.
Et oui, parce que. Alors, il paraît qu'on vous confond tous les deux. Quand est-ce qu'on avait cette discussion la dernière fois?
Ça arrivait souvent, hein.
Bernard Tessier, Cyril Guimard.
Bah, ça, souvent, qu'on m'appelle Cyril. Et je crois qu'il y a souvent qu'on t'appelle Bernard aussi.
Oui, d'ailleurs, je m'appelle Bernard Guimard et toi.
Cyril Thévenet.
Bah, je vois pas la ressemblance, en fin de compte.
Si, c'est évident. Regarde.
Ah ouais? Ah non, quand même. Déjà, il fait 30 cm de plus, Bernard. Il n'a pas de lunettes.
Mais les gens n'ont pas un maître avec eux pour...
Et puis on est là dans l'imaginaire, hein. On est vraiment pas sur quelque chose de tangible.
Et puis c'était la même génération. Bien sûr. Hein, c'était
mais on peut, il faut rajouter Poulidor, parce que Poulidor rentre dans notre trio.
Il y a des fois que... il y a des fois moi on m'appelle Poulidor.
Hein. Oui, non, mais moi aussi.
On m'appelle Guimard, ça me dérange pas trop, il y a qu'un an de plus, mais on m'appelle Poulidor, l'autre il y a 15 ans de plus que moi.
Vous venez au Trisquet à la guerre, je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais il y a quand même quelqu'un qui était de guerre, qui est toujours de guerre, qui m'a appelé d'abord Poulidor, après Thévenet, et là quand tout le monde a rigolé, on était tous payés de rire, on lui a quand même dit que je m'appelais Guimard et que j'habitais juste à côté de son garage.
Bernard,
l'une des prophètes en son pays.
Bernard Thévenet, qui après avoir remporté ces deux Tours de France, a commenté le tour à la télé pendant de nombreuses années.
Oui.
Et puis alors maintenant, qu'est-ce qui se passe pour Bernard Thévenet?
Maintenant, je suis
sur le tour quand même. Hein.
Oui, je suis sur le tour avec l'organisation, avec ASO, je fais les relations extérieures. C'est-à-dire que j'ai une voiture avec un pilote et deux invités de marque.
C'est plus tranquille que de commenter
tous les jours. C'est c'est plus tranquille, mais commenter, c'est bien aussi, parce que faire partager sa passion à des, ouais, à des milliers de gens, c'est bien aussi. Mmh. Moi, je commentais, c'est peut-être pour ça qu'on m'a pas gardé, parce que j'étais passionné, je faisais partager ma passion, et il paraît que j'ai appris ça ces derniers temps, que je n'étais pas assez critique. Alors, pour ça quand...
Ouais. Ah ouais, parce que là, on en a un qui est dans le genre critique, qui se pose là.
Hein. Oui, j'ai entendu l'autre soir, là. Ça fait un peu la polémique.
Ah, si t'étais comme consultant pour une radio ou une télévision, tu serais mis dans le sac de tout le monde. Hein.
Oui, de toute façon.
Tu serais le responsable de, des mauvais spectateurs.
Voilà.
Mais êtes-vous sûr que c'est un Français?
Non, on ne sait pas. On ne sait pas qui a fait ça. On ne sait même pas si ça existait, en fait. Hein. Bon, enfin bref, on ne va pas polémiquer.
Je pense qu'on peut lui faire confiance.
On ne va pas polémiquer.
Non, ce n'est pas notre genre. Merci Bernard, en tous les cas, d'être venu dans nos studios. On est ravis de t'avoir. Et puis Bernard Téné va faire la une de l'actualité dans 3 jours, évidemment. 40 ans après sa victoire à Praloux, 40 ans après qu'il ait dégagé le cannibale. Enfin, pas complètement renversé le cannibale. L'ami intime de Cyril Guimard.
Le
petit rat ou le Napoléon. C'est comme ça qu'il
ne continuez pas.
Ah, dans la polémique, on aime bien ça.
Napoléon, je pense pas que ce soit le cannibale qu'il est surnommé. Qui est surnommé Napoléon?
Non, il paraît qu'on le surnommait Napoléon dans le peloton. C'est ce qu'avait dit
Cyril.
D'abord Tichèf et après Napoléon. Mais c'est parti sur le bouquin de Bruno Bade.
Ah oui, un célèbre photographe.
Qui m'a mis en Napoléon.
T'as accepté de poser en Napoléon.
Ça lui convient à merveille. Ça lui va bien, ça.
Je n'ai aucun tabou.
Et poser nu ne lui pose aucun problème.
Non plus.
Mais il l'a pas fait quand même.
On a les preuves.
Ah bon.
Merci Bernard en tous les cas.
Je vous en prie.
Et on va fêter un bel anniversaire.
Bonne soirée.
Dans 3 jours.
Bonne soirée.
On va faire un petit tour au volet avec la finale de la Ligue mondiale. La France opposée à la Serbie. Benjamin. Glaçon est-on?
Ça se passe plutôt bien pour les Français. 2-7 à 0 pour les tricolores. On est dans le troisième set actuellement. Le premier set avait été remporté assez facilement par les Bleus, 25 à 19. Ça a été plus difficile dans le deuxième set, plus serré, 25 à 21 pour les tricolores. On est actuellement dans la troisième manche, 4 à 2 pour les Serbes qui ont fait le break. Attention à ces Serbes qui ont été très bons dans le deuxième set, notamment en contre. Et attention à la baisse de régime qu'on avait connue du côté des tricolores. Face à la Pologne, champion du monde en titre hier, alors que les Français menaient de partout, ils avaient été rejoints de partout. Là, on espère qu'on ne retrouvera pas cette baisse de régime. Je rappelle le score, 2-7-0 pour le moment pour les Français et 4-2 pour les Serbes dans le troisième set, Christophe.
Merci Benjamin, on vous rappelle également que l'équipe de France de Coupe Davis a été éliminée tout à l'heure en quart de finale par la Grande-Bretagne après la défaite de Gilles Simon, battue par Andy Murray en 4-7. 17h30, on vous rappelle également que c'est le Gorille de Rostock. Un certain Greipel qui a remporté la victoire ici de cette 15e étape, le Gorille qui frappe 3 fois, 3e victoire sur les routes de ce Tour 2015. À tout de suite.
RMC Intégral Tour. J'adore rouler. Pignon fixe. Pas de frein. Je peux pas arrêter. Christophe Cessieux. De toute façon, je veux pas.
Il y en a que pour toi et ton vélo, t'es qu'un égoïste.
17h34 sur RMC, l'intégral tour. On va tout de suite derrière la ligne d'arrivée. Pierre-Yves Leroux est en compagnie du manager de la formation AG2R La Mondiale.
Exactement, Vincent Lavenue, on s'éloigne un petit peu du bus. On est allé très loin après la ligne d'arrivée pour retrouver Vincent. Mais il fait chaud, hein, Vincent, aujourd'hui, pour les coureurs, mais aussi pour les suiveurs.
Mais je crois que les coureurs ont souffert encore une fois de la chaleur. Hein. Dans la vallée, il faisait 36-37 degrés. Donc les organismes souffrent quand c'est comme ça. Hein. Donc c'est répété jour après jour. Donc effectivement, c'était une journée aussi difficile.
Nous sommes nombreux à attendre au pied de votre bus parce que Jean-Christophe Perrault a souffert beaucoup aujourd'hui. On est en train, à l'intérieur du bus, de lui refaire son pansement, de lui enlever son maillot surtout. Et ça prend du temps, c'est compliqué. Il a été en difficulté.
Oui, journée difficile. Hein, ce qui n'est pas étonnant aussi, puisque rappelez qu'il y a 2 jours, il a pris une chute importante. Et que derrière, il subit le contre-coup. Moi, hier, étonnamment, j'ai trouvé qu'il était, il a résisté. Mais bon, là, ça fait 2 jours de souffrance. Avec des nuits difficiles, donc forcément, il a une sale tête à l'arrivée, ce qui se comprend. Hein. Je pense qu'il a besoin à nouveau de repos et de retrouver, de passer une bonne nuit. Donc, j'espère qu'il passera la journée de demain, parce que je pense qu'il a fait 80% du chemin. Donc, le but, c'est qu'il pète pas demain, qu'il puisse rallier la journée de repos et ensuite, pourquoi pas repartir de plus belle.
Est-ce que la déception d'hier est un petit peu atténuée, passée avec ce mano à mano entre Romain Bardet et Thibaut Pinot qui finalement se font passer sur les derniers mètres?
Oui, enfin moi personnellement, il n'y a pas de déception parce que je crois que Cumin c'était le plus fort, tout simplement. Hein. Il a surpris tout le monde, mais c'était le plus fort. Hein. Romain avait fait le gros du travail. C'est sûr qu'à un moment donné, on voyait qu'il était parti pour remporter cette étape et lui-même il l'a cru. Derrière Thibaut Binot a bien géré sa montée pour revenir sur Romain et tous les deux à ce moment-là, ils avaient besoin effectivement de souffler un petit peu quand Cumin a déboulé. Et Cumin c'est un super finisseur, un super rouleur. Donc voilà, pour moi le plus fort a gagné. Alors, il y a une déception bien sûr, mais et c'est le sport aussi, il faut savoir accepter la victoire des autres.
On sent Romain Bardet en tout cas en meilleure forme et peut-être avec beaucoup d'ambition pour cette troisième semaine.
Oui, je crois que Romain est dans une phase ascendante, hein, donc je pense qu'il y a encore de belles choses à faire sur les Alpes. Ouais.
Merci Vincent Lavenu, on va essayer d'avoir la réaction de Jean-Christophe Perrault dans quelques instants. Il est toujours dans le bus pour le moment. Je vous fais signe dès qu'il descend.
Très bien, c'est l'heure du jeu Tour de France RMC aujourd'hui. Je vous offre la possibilité de gagner le jeu de société L'Échappée Infernale, le livre Parlons Vélo de Marc Madiot aux éditions Talents Sport et surtout deux places VIP pour assister dans les meilleures conditions à l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées. Ce sera dimanche prochain. Pour tenter de gagner ce superbe pack cadeau, appelez le 3216 touche 6 ou envoyez le mot-clé RMC par SMS au 73216. Bonne chance. Fred, 17h36 avant la réaction de Jean-Christophe Perrault dans quelques minutes au micro de Pierre-Yves Leroux. On va rappeler la victoire d'étape de André Greipel. Troisième victoire pour le Gorille.
Oui, après Zélande, après Amiens, voici Valence pour André Greipel, le sprinter allemand de l'équipe Lotto Soudal qui a fait parler sa puissance aujourd'hui pour l'arrivée de cette 15e étape. Elle était promise aux sprinteurs malgré ce col de l'Escrinet très roulant placé à 60 km de l'arrivée. André Greipel qui déboîte à 400 mètres de la ligne et qui devance, qui résiste jusqu'au bout pour devancer sur la ligne d'arrivée son compatriote allemand John Degenkolb, troisième le Norvégien Alexander Kristoff, quatrième Peter Sagan, le maillot vert qui s'était à nouveau comme hier glissé dans l'échappée du jour. Il conforte son maillot vert mais il manque encore une fois le coach. Cinquième le Norvégien Boasson Hagen et le premier Français s'appelle Christophe Laporte. Il est jeune, il porte le maillot de l'équipe Cofidis. Un autre Français dans le top 10, c'est Florian Vachon pour Bretagne Séchée. Aucun changement au classement général et Sagan qui conforte donc son maillot vert. Mais tout de même, ce Greipel semble être le meilleur sprinter du monde. Lui qui a remporté à 33 ans sa 9e étape sur le Tour de France. La puissance aurait-elle désormais raison de la vélocité sur les sprints du Tour ?
Sur ce tour, oui, incontestablement, Greipel a passé un petit cran et ses adversaires ne peuvent que constater sa force, sa puissance et sa vélocité aussi, parce qu'il y a quand même un moment où il monte dans les tours et pour l'instant, personne n'a pu lui reprendre un petit centimètre dans les 100 derniers mètres. On peut dire que Cavendish étant un petit peu à la rue sur ce tour, il devient, et Kittel qui n'est pas là bien sûr, mais il devient actuellement le numéro 1 des finisseurs.
De fait.
Alors Jean-Christophe Perrault au micro de Pierre-Yves derrière les lignes.
Oui, je suis avec l'un des courageux de
vous. On va retrouver Jean-Christophe Perrault avec notre confrère de France Télé pour la première réaction après cette étape difficile.
Oui, bah ce rythme-là, je vais pas faire long feu. C'est de plus en plus dur pour moi tous les jours. Voilà, je suis en tiré les conclusions.
Comment vous êtes senti aujourd'hui? Vous avez encore beaucoup souffert?
Ouais, bah des douleurs un peu partout, les vibrations me font mal, les jambes me tournent carrées, rien qui va.
Et qu'est-ce qu'on se dit dans ces cas-là sur le vélo? Qu'est-ce que vous avez dit tout le début d'étape et le reste? C'est quoi? C'est se sauver? C'est ça l'objectif?
Pas vraiment, c'était d'aller au bout pour voir demain et prendre des décisions en fonction de l'état de forme. Si ça continue comme ça, c'est de la survie, ça sert à rien de continuer. Hein.
Ça veut dire que vous envisagez d'abandonner demain ou pour la journée de repos?
C'est le tour qui va me croquer, tout simplement. Hein. Ça fait être le cas aujourd'hui, donc s'il n'y a pas de mieux demain, je donne pas cher de ma peau. Hein.
Même si ce n'était pas l'objectif, évidemment non, mais est-ce que vous êtes touché par tous les messages du public, les applaudissements, parce que les gens vous applaudissent là quand vous êtes arrivé? Il y a beaucoup, beaucoup, j'allais dire, d'amour de la part des gens.
Ouais, ça fait toujours plaisir, mais j'aurais préféré briller avec des résultats. C'est décevant de briller en étant dans les derniers du peloton. Ouais.
Merci beaucoup.
Voilà, action de Jean-Christophe Perrault, beaucoup d'émotions, les encouragements écoutés derrière. Avec des supporters ici qui sont venus le soutenir. On a senti l'émotion déjà il y a un an, vous savez, derrière la... la conférence de presse de Jean-Christophe Perrault, où il y avait eu beaucoup d'émotions. C'est un petit peu cette émotion qu'on retrouve aussi aujourd'hui.
Ouais, évidemment, Jean-Christophe Perrault qui quand même dans son ton est différent des deux jours précédents, c'est-à-dire que là il en a plein les bottes, hein, Cyril. Là c'est évident, il est vraiment
il est au bord de la rupture sur le plan physique, mais à force de souffrir et puis quand on sent une certaine forme d'impuissance à inverser le fil des événements, sachant que demain ça va pas non plus être une bonne étape, il est peut-être aujourd'hui en train de craquer psychologiquement et de se demander, parce que la question est quand même importante, à quoi ça sert de continuer.
Jean-Christophe Perrault qui a sauté dès les premiers kilomètres de cette étape, dès la sortie de Mende, il y avait une côte de troisième catégorie qui se dressait à la sortie de la capitale de la Lozère. Personnellement, je pensais qu'il allait jeter l'éponge au cours de la journée. Cyril, peut-être que toi aussi, parce que là, il y avait tous les ingrédients réunis pour un abandon, et je suis surpris de l'entendre parler de façon pessimiste comme ça à l'arrivée, alors qu'il a tenu. Ouais. Ce serait peut-être un bon enseignement pour lui, et quelque chose d'encourageant d'arriver à rallier Valence dans les délais, alors qu'il a sauté dès le premier kilomètre. C'est assez surprenant qu'il n'ait pas abandonné et qu'il continue de parler comme il parle, c'est-à-dire le tour est en train de me croquer. S'il n'y a pas de mieux, évidemment, ça se termine. Il fait quand même preuve d'une sacrée force mentale.
Mais s'il n'y a pas de progrès, Lucho, avec les montagnes, les Alpes qui attendent les coureurs à partir de mercredi, est-ce que c'est bien conscient? Est-ce que c'est une bonne idée de continuer sur de France quand on est dans son état?
Ben, il faut pas rêver, hein. Il faut pas rêver. Je crois que Perrault est en train de prolonger quand même son Tour de France, malgré ses difficultés, mais on peut s'attendre à voir l'abandon dans les prochains jours de Perrault, voire peut-être hors délai carrément. Il va vouloir poursuivre le tour jusqu'au bout, mais je pense que dans les Alpes, soit il abandonne carrément, ou alors soit il sera hors délai.
Il peut pas se refaire la cerise un tout petit peu là.
C'est pas possible. Tu as vu l'état de Perrault qui se fait lâcher pratiquement au début de l'étape. On voit mal comment il peut continuer le tour, et surtout sur les jours qui arrivent vont être très très difficiles pour lui.
Luc, l'année où tu es hors délai à l'Alpe d'Huez, maillot de champion de France sur le dos, tu savais que tu étais cuit et que tu ne verrais pas Paris. On le sait, ça.
Oui, je le savais, oui, parce qu'à force de prendre d'être dans le groupe Eto avec les sprinteurs et de se prendre 40 minutes à Sestrières, 45 minutes le lendemain, je sais plus quelle étape c'était, et puis après à un moment donné, l'étape de l'Alpe d'Huez, je me suis fait lâcher carrément tout au début,
comme Perrault,
au bout de 500 mètres, et j'ai fait les 165 km tout seul, et je suis arrivé à l'Alpe d'Huez avec 1h15 de retard, avec la bouteille d'oxygène qui m'attendait en haut, et voilà, je suis pas reparti le lendemain.
Ok, 17h43, on revient dans quelques instants pour terminer notre débriefing de cette 15e étape remportée donc par André Greipel. Jean-Christophe Perrault s'est accroché, mais il n'a pas parvenu. Il essaie de me piquer mes petits fours.
Il y en a plein, regarde.
Ça va pas la tête. Le volet, la finale de la Ligue mondiale, Benjamin Glaise, la France, tout proche d'une victoire.
Et oui, on se rapproche de la première. Ce sera la première victoire internationale pour l'équipe de France. Pour le moment, 2-7-0 pour les Français dans le troisième set. Et bien, ça y est, les Bleus ont eu un début difficile. Ils sont maintenant devant au score 16-14 pour les Bleus dans ce troisième set entre la France et la Serbie pour cette finale de la Ligue mondiale, Christophe.
Merci Benjamin, on se retrouve dans quelques instants pour la suite et la fin de l'Intégral Tour. En tous les cas, pour le direct, à tout de suite.
RMC Intégral Tour.
Bernard Thévenet qui n'a plus que 30 mètres de retard sur Eddy Merckx, mais Merckx est prévenu. Et il n'a plus que 20 mètres quand même. Merckx est prévenu. Alors, un homme prévenu en vaut-il deux? Un Merckx prévenu pourra-t-il s'accrocher? Et que va-t-il faire au moment où Bernard Thévenet va le rejoindre? C'est l'un des grands moments du sport cycliste, un des plus grands moments des 15 Tours de France que j'ai eu le plaisir de suivre.
Christophe Cessieux.
Voilà le commentaire, la voix de Daniel Potras, c'était en 1975, donc Bernard Thévenet qui mettait à mal la domination de Eddy Merckx. On l'embrasse, Daniel, il est venu nous rendre visite sur le Tour il y a quelques jours, l'une des grandes voix du Tour de France à la télé dans les années 70 et même plus tard, évidemment. Victoire donc d'André Greipel ici à Valence, au terme de cette 15e étape, une 15e étape qui s'est déroulée dans des conditions une ambiance un peu particulière. On va en parler avec Georges Quirino, qui est descendu de sa moto et qui est avec nous dans ce studio. Salut Georges.
Bonjour.
Georges, tu viens de croiser Dave Braceford, le manager de la formation Sky. Alors, on est dans une ambiance, là. C'est la fin du monde, quoi. On a...
Hein, non, enfin, je
en tout cas, une ambiance un peu pesante. Pour être sûr, rappelons ce qui s'est passé ce matin à Mende, où il y avait un peu plus de force de l'ordre par rapport à d'habitude autour du bus de l'équipe Sky. Il y avait 6 policiers ce matin. Nicolas Portal, le directeur, c'est évidemment consécutivement au jet d'urine sur Chris Froome hier. Donc on a parlé d'agression du maillot jaune dans certains médias notamment. Nicolas Portal disait ce matin que bah oui, certains coureurs avaient peut-être peur dans l'équipe. À l'arrivée ici à Valence, il y avait encore une présence de la police autour du bus de l'équipe Sky. Enfin, le bus. Non, ils sont venus avec leur motorhome qui n'était pas siglé, la formation Sky. Alors, est-ce que c'était volontaire pour passer plus inaperçu? On peut se poser la question. Il y a des chances. Delph Bressoir, le manager qui d'habitude répond à tout le monde, là, cette fois-ci, il restait très silencieux. Il évitait la presse véritablement jusqu'au moment où j'ai marché un petit peu avec lui sur le retour, où j'ai senti un homme très marqué qui me disait, voilà, j'ai vécu en France pendant des années, j'ai travaillé en France et ce qui se passe sur la route, ça me dégoûte. Quand je vois ce qui arrive au maillot jaune, mes coureurs, on leur crache dessus, on leur a tapé dessus, c'est trop. Il parle de respect, il demande du respect pour ses coureurs, pour son maillot jaune, très marqué véritablement. Il en a parlé avec les organisateurs apparemment, même si eux démentent. Est-ce qu'il a demandé une sécurité en plus autour de son équipe? Il sous-entend que oui, clairement, la présence policière supplémentaire ce matin était de leur fait. Donc il y a vraiment un climat un peu pesant autour de cette équipe où on est leader du Tour de France finalement, mais on est loin d'avoir le sourire. Et Dave Wallstorff, qui devrait parler encore un peu plus ce soir à la télévision publique, va régler ses comptes, je pense, vu la façon dont il m'a parlé avec certains consultants.
D'accord.
Ou en tout cas, il ne le fera peut-être pas en on,
médias,
mais je peux vous assurer que...
Dont nous sommes, évidemment.
Je ne sais pas, mais avec certains consultants de la télévision publique, il est très remonté.
Oui, pas sûr que Dave Belford vienne nous rendre un petit bonjour, nous donner...
Je lui ai demandé, il n'a pas voulu venir.
Non, voilà. Je crois pas qu'il soit plus dérangé que ça par les radios françaises. Hein, Belford, c'est Sky, on tape sur du très très haut niveau. Je veux pas comparer les audiences radio et télé, mais on sait évidemment que la télé, ça se chiffre à des millions de téléspectateurs et les remarques formulées par Portal ou par Brailsford, elles visent la télé. Hein,
enfin, dans les il a choisi sa parole en tous les cas, il ne veut parler qu'à la télévision publique française. Là, je l'ai attrapé sur le chemin, on a pu discuter quelques instants, mais ça prouve qu'ils veulent envoyer un message.
Voilà. Oui,
ils veulent... passer un message.
Oui, ça
message.
Pour passer des messages, ils sont très forts. Ouais. N'oublions pas qu'on est là évidemment. Encore dans de la communication, c'est de la com. Il se dit attristé, j'ai vécu en France. C'est un super communiquant.
On a l'impression que c'est la deuxième guerre mondiale, là, qu'ils se font attaquer au bazooka sur le bord des routes. Toi qui es sur la moto.
Attention, ils sont quand même.
Toi qui es aujourd'hui, ils étaient dans l'échappée, donc c'est difficile de voir ce qui se passe dans le peloton. Mais aujourd'hui, est-ce que tu as lu des pancartes?
C'est arrivé sur les jours précédents, des Froome égale Armstrong. On en avait parlé, des pancartes, oui, contre Chris Froome, il y en a, contre les Sky, il y en a, des cris contre la Sky, il y en a eu sur les étapes de montagne. Aujourd'hui, un petit peu moins, il y a moins de monde sur le bord des routes et les spectateurs sont moins proches des coureurs, mais. Oui, ça existe quand même. Il faut pas dire que ça n'existe pas. En tous les cas, alors peut-être qu'effectivement la communication est un petit peu grosse, mais. Il n'y a pas rien du tout.
Non, il n'y a pas rien. Il n'y a pas rien, mais c'est des coureurs cyclistes. Ils gagnent des courses. Ils sont portés au nu. Ils sont vraiment au sommet de la hiérarchie de leur sport. Je crois qu'ils ne sont pas trop à plaindre.
Et parce qu'ils craignent surtout qu'il y ait un dérapage plus important.
Est-ce que ce n'est pas en parlant, justement, en dramatisant la situation, qu'on ne risque pas de provoquer les.
Mais je pense qu'ils aiment ça. Partout, hein. On est dans le règne du buzz dans le troisième millénaire. Donc on y va à fond. Il y a une faille, ils s'engouffrent.
Là, en faisant une déclaration à France Télé dans quelques minutes, ça va prendre encore une ampleur plus considérable. Hein, nos rédactions sont à bloc là-dessus parce que il se passe quelque chose.
Le terme victime a été utilisé. On est des victimes sur ce Tour de France. Alors après, communication ou pas, il faut quand même dénoncer l'attitude de certains sur le bord de la route, le condamner. Évidemment, on jette pas de l'urine sur,
Un coureur. Quand on voit Luc Leblanc en short sans couture, lui aussi est une victime de la mode, lui.
Bien sûr. Mais il y a d'autres, il n'y a pas que le maillot jaune, hein. Nicolas Portal, le directeur sportif, nous l'expliquait ce matin. Ils sont insultés sur le long de la route, ils reçoivent des canettes, me disait-il, sur le pare-brise de la voiture. Alors ça, les caméras de télévision ne sont pas toujours derrière la voiture de Nicolas Portal, donc c'est vrai que c'est difficile de d'évoquer la véracité des faits, mais en tous les cas c'est ce qu'ils nous disent. Et Nicolas Portal nous disait ce matin, moi je sais pas trop quoi dire à mes gars quand certains me disent, mais Nicolas, quand on va autour de Yorkshire et tout, tout va bien pour nous, quand on va ailleurs et quand on est ici, ben on comprend pas. Nicolas Portal dit qu'il avait un peu honte, voilà, de
Tour de Yorkshire qui est en Angleterre,
Sur les terres de Sky, évidemment. Dans tous les cas, la communication est celle-ci.
Ouais, c'est comme quand Thomas Vauclair se fait insulter aux Pays-Bas parce qu'on lui reproche d'avoir ne pas avoir perdu Van der Garland il y a quelques années sur les routes du Tour. Bon,
ça s'appelle jouer à domicile, jouer à l'extérieur. Ouais, ça existe dans tous les sports.
Quand tu joues dans un stade à l'extérieur, tu te fais souvent.
En tous les cas, on a un peu changé la communication quand même chez Sky par rapport au début du Tour. C'est-à-dire qu'au début du Tour, Dave Brailsford et tout le monde, Chris Froome même descendait longtemps avant du bus et il répondait à toutes les questions. Dave Brailsford disait même, je suis ici pour répondre à toutes les questions, pour que ce soit clair. Et maintenant, c'est autre chose. C'est, on s'enferme un peu, on répond, on passe un message quand il le faut. Le climat a changé quand même.
Le climat un peu lourd sur ce Tour de France. On en reparlera évidemment tout à l'heure entre 19h et 20h avec toute la Dream Team. Il va être temps de se quitter pour le direct en tous les cas. On va faire un dernier point avec Benjamin Gless pour la finale de la Ligue mondiale de volley. L'équipe de France qui est opposée à la Serbie, Benjamin.
Ah ouais, ils étaient menés à 17 à 20 dans ce troisième set après avoir remporté les deux premiers sets. Les Bleus là sont revenus à 22 partout. La Serbie qui vient de reprendre l'avantage 23-22. C'est très serré dans ce troisième set. La Serbie qui a mené tout au long de ce set. On va voir ce que ça donne en tout cas pour la suite. Pour le moment, 2-7 à 0 pour l'équipe de France et donc 23 à 22 pour la Serbie.
Merci Benjamin. Allez, on file à Maison Lafitte pour le récap des courses hippiques du jour avec Laurent Guédard. Bonsoir Laurent.
Salut Christophe, c'est le 6 Angelo Logic qui a emporté le quintet plus de cet après-midi à Maison Lafitte. La deuxième place revient au 8 Love Freedom, la troisième pour le 11 Dream Eyes, quatrième le 18 Vizadora et la cinquième place pour la favorite c'était le 12 Silver Lake. 6, 8, 11, 18 et 12, le quintet rapporte 13 647 euros. Demain, direction Vichy pour un quintet réservé aux galopeurs. Avec attention, déjà un nom partant, le 15 Spotted Cat. Ils ne sont plus que 15 au départ sur la distance de 1600 mètres. Brahim Assoum m'a rejoint. Bonjour Brahim.
Salut.
Quel est ton préféré pour ce quintet?
Alors moi, je vois bien l'As Cuba Libre qui a déjà fait ses preuves à ce niveau l'an passé. Il vient de manifester un net regain de forme et je pense qu'il peut confirmer ses bonnes dispositions du moment.
Alors quant à moi, je vous recommande tout d'abord le 9 Kefin qui a fait ses preuves à ce niveau. Sa dernière sortie est très encourageante et je le crois capable de monter sur la plus haute marche du podium. Et je me méfie du 16 Watuka. Elle n'a pas couru depuis le mois de mars, mais elle s'était imposée sur cette piste l'an passé en faisant également sa rentrée. Attention à elle, c'est un très bel outsider. Et je vous rappelle que d'autres informations des paris sont disponibles sur rmcsport.fr.
PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Un nouveau point sur la finale de la Ligue mondiale entre la France et la Serbie, Benjamin.
Des balles de match pour les Français, 24 à 23 pour cette équipe de France avec le smash. Et ça y est, c'est fait. La victoire des tricolores, c'est la première victoire dans une Ligue mondiale pour les Français. Ils avaient terminé deuxième en 2006. Ils étaient tombés face au Brésil en finale. Cette fois-ci, c'est fait face à la Serbie. Et de quelle manière? 3-7 à 0 pour cette équipe de France. Ils sont tous en train de sauter, de se prendre dans les bras. On voit Ngapet là qui est auteur d'un très bon match. Il a marqué 13 smash pendant cette rencontre. Et les Serbes qui sont abattus, bravo aux Bleus qui remportent donc ce premier titre international pour le volleyball français. On les félicite. 3-7 à 0. Je rappelle le score, hein, 25 à 19 dans le premier set, 25-21 dans le deuxième. C'était très serré dans le troisième, 25 à 23 pour les Bleus.
Bravo à nos volleyeurs français. Donc enfin une bonne nouvelle pour le sport français. On peut pas dire qu'on en est eu beaucoup.
beaucoup ces derniers jours. Bravo la Marseillaise donc pour l'équipe de France qui remporte la Ligue mondiale. Martial Fernandez, on va se quitter sur ce cette bonne nouvelle.
C'est
enfin une bonne nouvelle.
Parce sympa, que, on y reviendra bien sûr sur ces bleus qui gagnent. On reviendra aussi sur les bleus qui perdent avec les tennismen français battus par un Andy Murray trop costaud en quart de finale de la Coupe Davis. Et puis une équipe de France d'escrime trop loin de ses objectifs avec un bilan de seulement 3 médailles au championnat du monde à Moscou.
Garogori
RMC Intégral Tour.